Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Supplément aux mémoires. Texte retranché. Digression philosophique de l'âme et de la matière. J'avais beaucoup étudié les livres de philosophie et de métaphysique. Tout ce qu'on peut dire pour ou contre l'existence de l'âme et l'existence de Dieu m'était connu. Tous les écrits et commentaires contre la partie historique, dogmatique et liturgique du christianisme avaient été l'objet de mes investigations. Je n'ignorais aucune des objections des esprits forts, depuis ceux qui, niant le Christ, regardaient les évangiles comme un beau mythe de l'école d'Alexandrie du second siècle, jusqu'à ceux qui ne voyaient dans le christianisme que le développement naturel de la civilisation, la marche obligée, le progrès invincible de la société générale. Si mon imagination était naturellement religieuse, mon esprit était sceptique. Examinateur impartial des motifs de la foi et des motifs de l'infidélité. J'avais pitié des croyants, mais j'avais un profond dédain pour les incrédules, trouvant les raisons de croire supérieures aux raisons de ne pas croire. Ma philosophie n'était pas plus sotte et plus suffisante que cela. Le consentement universel des hommes, touchant l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, n'avait cessé de m'embarrasser à l'époque même de l'indépendance de mes opinions religieuses. Qu'il y eût chez les sectes philosophiques de l'Orient, de l'Égypte, de la Grèce, des doctrines secrètes d'athéisme et de matérialisme, que les Chinois et les Juifs, si l'on veut, malgré leur grande école d'inspiration ou de prophétie, fussent des peuples matérialistes, cela ne m'amenait à aucune conviction. D'abord, rien de moins certain que les faits dont on argumente au sujet des écoles philosophiques. Mille choses contredisent ces faits. Ensuite, parmi les peuples athées et matérialistes en masse, l'individu est religieux. Il l'est vaguement sans doute, mais on lui surprend des instincts d'une autre vie, ou dans son culte des morts, ou dans les prières qu'il adresse à la matière. Quand il implore la pluie ou le soleil pour son champ, il suppose une intelligence. Or, c'est là ce qui constitue le consentement unanime des hommes. Jamais la nature ne donna à l'individu un instinct qui ne lui fût pas naturel, qui ne fût pas en lui un besoin, une vérité de sa propre essence. Si les hommes, pris un à un, croient à leur su, ou insu, à une vie future. C'est qu'il y a une vie future, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause, parce qu'il est absurde de dire que l'homme passe ses jours à craindre ou à espérer, au-delà de la tombe, un avenir qui n'existe pas. Bizarre animal qui aurait la connaissance de la mort, qui posséderait un sentiment dont la rapidité et l'étendue embrassent tous les siècles et tous les mondes, et qui ne serait doué de cette extension de temps et d'espace que pour s'enfermer à jamais dans un trou de 6 pieds de long? Les gouvernements, les nations peuvent être athées et matérialistes, les individus, jamais. Il me paraissait encore plus moquable, lors même que je n'étais plus chrétien, d'assurer avec une école moderne que le progrès de la société humaine serait d'arriver au matérialisme, à la preuve physiologique et mathématique qu'il n'y a point d'âme. Beau résultat de la science, et d'après lequel il sera facile d'établir la conscience ou la moralité des actions. Que le résultat soit beau ou laid, bon ou mauvais, dit-on, ce n'est pas là la question. Le matérialisme est un fait. Or, tout fait doit être accepté, qu'il blesse ou non nos cœurs, nos habitudes, nos désirs, nos études, nos systèmes, nos préjugés, nos préventions. C'est précisément parce que le matérialisme n'est pas un fait prouvé qu'on n'est pas obligé de l'accepter. On peut très bien ne pas accorder la majeure du syllogisme. Quand on connaîtrait tous les recoins du cerveau, où la vue de l'objet va mettre en mouvement les diverses perceptions intellectuelles, resterait toujours à expliquer la cervelle elle-même, ou les différentes fonctions des organes cérébraux dans la théorie du docteur Gall. Si vous coupez un nerf derrière l'oreille d'un dindon, si vous attaquez certaines parties du crâne d'un quadrupède, voilà que le dindon perd la faculté de s'arrêter et qu'il court toujours. Voilà que le quadrupède est dépourvu d'une des facultés de son instinct. Donc l'intelligence tient à des causes physiques. Quelle belle découverte de cette nature ne ferait-on pas en bistourisant une 20aine de milliers d'hommes, en fouillant dans les entrailles de quelques centaines de femmes, comme on martyrise des lapins, des chats, des chiens et des chiennes. On peut être un très bon anatomiste et un très mauvais logicien. L'argumentation ci-dessus est une pure pétition de principe. On admet comme prouvé ce qui est à prouver. Si l'homme a une âme, cette âme a nécessairement des organes matériels à son service, tant qu'elle est unie à la matière. L'altération des organes matériels trouble nécessairement les perceptions de l'âme, mais ne la détruit pas. Parce que vous interrompez le cours d'un ruisseau, est-ce à dire qu'il n'y a plus d'eau à la source? Si l'homme n'a pas d'âme, vos cruelles expériences ne portent alors que sur la matière, ne démontrent que les aptitudes de cette matière. Mais il faut que vous me prouviez que l'homme n'a pas d'âme. Or, c'est ce dont je vous défie. Enfin, votre expérience ne vous tire pas d'affaire. Vous m'apprenez bien que tel accident arrivé au cerveau suspend telle perception. Mais vous ne m'apprenez pas quelle est cette perception, et comment il advient qu'un peu de matière molle dans un coin de votre tête produit une idée. Il me suffirait pour croire à l'âme de voir un cadavre. Il est impossible que l'esprit plein d'intelligence et de feu, l'esprit capable d'aimer et de sentir, l'esprit indivisible, incorruptible, sublime, qui s'élevait jusqu'à Dieu, soit de la même nature que cette masse immobile, insensible, stupide, glacée, tombant en lambeaux, pourriture infâme, aveugle, sourde et muette, que son vil poids entraîne au sein de la terre. La mort ne détruit pas l'extérieur de l'animal, comme elle défigure l'effigie de l'homme. Le quadrupède garde sa fourrure, l'oiseau ses plumes, le poisson ses écailles, le reptile sa peau, l'insecte ses couleurs. Au mouvement près, vous ne sauriez dire si ce lion, cet aigle, cet ichis, ce serpent, ce papillon est vivant ou mort. L'animal appartenant à la matière est tellement proche de son élément qu'en cessant de respirer, il ne varie qu'un mode de son être. Une pendule qui marche et une pendule arrêtée conservent la même apparence. Mais notre argile s'altère en devenant cadavre. L'homme, la plus belle des créatures dans l'état de vie, est la plus hideuse de toutes dans l'état de mort. la bête morte est chaste et vêtue, l'homme mort est obscène et nu. Ce cadavre convulsif n'est pas allé paisiblement au néant comme on retourne à son origine. Il n'était pas seul. Quelque chose a contrarié sa dissolution. Il s'est fait une séparation violente dont la nature désespérée et stupéfaite a gardé la terreur. Le corps mort vous donne non l'idée d'une machine démontée, mais d'une maison vide, d'une habitation ce matin debout et occupée, ce soir en ruine et abandonnée pour jamais. L'expression sévère ou sereine qui parfois demeure un instant au visage du décédé n'est que le reflet d'une lumière lointaine, qu'une trace du passage de l'âme. Cette beauté intellectuelle du dehors, estompée sur la laideur repoussante de la chair, est une preuve de plus de la différence et du contraste des deux principes. Si la pensée appartenait au cerveau matériel, elle ne pourrait être empreinte dans ce front qui ne pense plus. L'effet cesserait avec la cause. De même si l'homme est d'une nature semblable aux mollusques, si les mollusques sont le premier degré et l'homme le dernier dans l'échelle des êtres animés, ou plutôt si l'organisation n'est qu'une, si le polype, la sèche, l'huître, le limaçon et l'homme ne sont qu'un même animal diversement agencé et plus ou moins développé, expliquer ces embryons de l'homme. Que si l'animal, se perfectionnant, passe de l'huître à l'homme, par le reptile, le poisson, l'oiseau, le quadrupède, le singe et le nègre, comment se fait-il que l'opération ne s'accomplisse pas graduellement sous nos yeux? Comment se fait-il que l'huître reste toujours huître? La nature s'est-elle fixée? Et dans ce système, peut-elle se fixer? Ne devrait-on pas trouver des huîtres progressives, demi-poissons, des poissons demi-oiseaux, des oiseaux demi-quadrupèdes, des quadrupèdes demi-singes, des singes demi-nègres, des nègres demi-blancs? Puis, sur l'échelle descendante, l'homme retournerait à l'huître, en repassant par les degrés inférieurs jusqu'à sa coquille. On répondra que cela arriverait en effet si la matière n'était épuisée. Chaque être s'est arrêté au degré de forme auquel il était parvenu quand la nature a perdu la faculté de création progressive. Quelle preuve m'apportez-vous de cet épuisement de la matière? Votre assertion, ce que vous imaginez pour bâtir votre roman. La plaisanterie est trop forte. Je me pourrais contenter de vous dire « démontrez » et vous affirmerez ensuite. Mais je ne vous demande qu'un seul mot d'explication. Dites-moi comment tous ces individus, huîtres et hommes, qui ne sont plus progressifs, qui ont cessé d'être adultes dans l'œuvre générale par l'impuissance de la matière, se reproduisent néanmoins chacun dans son espèce. Ils ont la faculté de se propager imparfaits, et ils sont eunuques quand il s'agit de se régénérer en l'état plus parfait, où les appelait leur organisation et les fins de la nature. Oh, que les savants, contempteurs des poètes, sont eux-mêmes de grands poètes, et souvent des poètes bien bouffons. La philosophie, dit Montaigne, n'est qu'une poésie sophistiquée. Les habiles, changeant de terrain, ont en réserve une vérité newtonienne dont ils foudroient les pauvres croyants en Dieu. Écoutez-les. L'homme est matière, et comme tel soumis aux lois de la matière. Un fait mathématique ne laisse aucun doute à cet égard. Augmentez ou le volume ou le poids de la terre, la puissance de l'attraction ou du centre de gravité. L'homme qui se tient debout tombera sur le ventre et se changera en reptile, n'ayant plus la force de prendre la perpendiculaire. Et n'est-ce pas au contraire ce merveilleux équilibre de la nature qui décèle l'intelligence divine? Chaque chose est dans sa proportion rigoureuse, et si cette intelligence venait à se retirer, tout retomberait dans la confusion du chaos. l'homme ne serait pas un reptile parce qu'il se traînerait sur la terre, mais Dieu aurait manqué la création. Supposez que le globe fût autre chose qu'il est, et que l'homme eût conservé les dimensions qu'il a, équivaut à la non-existence de Dieu. C'est toujours cette non-existence que vous avez à prouver. Enfin, l'organisation est-elle une ? Chose qui n'est pas du tout démontrée. L'anatomie comparée nous apprend-elle que la charpente osseuse est la même pour tous les animaux, que les os seulement, en empiétant les uns sur les autres, forment la variabilité des structures. Ainsi, dans l'homme, le crâne se serait accru aux dépens du facial amoindri, et dans le crocodile, la presque disparition du crâne aurait fourni le masque d'une face exorbitante. La nature, à ce compte, n'aurait qu'une même bandelette avec laquelle elle emmailloterait les êtres, mais en déchiquetant l'enveloppe, de manière à distinguer les espèces, comme Fénelon donne des habits divers aux citoyens de Salente. Eh bien, qu'est-ce que cela prouverait contre l'existence de Dieu et la création venue de Dieu ? Dieu n'a-t-il pu créer dans un ordre simple comme dans un ordre composé ? Est-ce la matière qui a agi d'elle-même et d'après sa propre loi ? Alors daignez m'enseigner ce que c'est que la loi de la matière. D'où vient cette loi ? Qui l'a faite ? Vous me répondrez, c'est la loi des êtres. C'est ce qui fait qu'on est parce que l'on est. C'est la condition d'existence de l'objet et de sa forme. Parlons clair et ne nous cachons pas dans des mots brouillards. Dites-moi, je vous prie, qu'est-ce qui fait que l'on est parce que l'on est ? Il y aurait selon vous des lois nécessaires, produisant en vertu d'elles-mêmes. Des lois, par exemple, qui font que 2 et 2 font 4, que le cercle est rond, que le triangle a 3 angles. Très bien, il vous reste à m'apprendre comment et pourquoi 2 et 2 font 4. Grand génie, il y a toujours une inconnue que vous ne pouvez dégager. Force vous est toujours de trouver qui porte la tortue, laquelle porte l'éléphant, par qui le monde est porté. Que l'anatomie ait marché à pas immenses, que la physiologie soit une science nouvelle, féconde en résultats ingénieux, que la chimie reformant sa nomenclature ait pénétré les substances, que chaque jour on compose et l'on décompose des gaz, que l'électricité, le galvanisme, le magnétisme révèlent des attractions ou des répulsions de fluides, des propriétés et des rapports ignorés, que la vapeur et les machines modifient la société matérielle, que l'on reconstruise l'histoire des époques de la nature, que notre globe et les globes soient explorés dans leur lumière, leurs éléments, leurs âges, leurs lois, leurs cours, que la géologie devienne une étude vaste et curieuse, que le genre humain commence à se mieux connaître par l'interprétation des monuments, par l'initiation aux langues dites primitives. Tant est que plus on avance en découverte, moins on y voit clair. Se croit-on sûr d'une vérité à l'aide d'une inscription, d'une figure, d'une expérience ? Vient une autre inscription, une autre figure, une autre expérience qui met cette vérité au néant. On ne fait que changer de nuit. Je ne suis pas du tout embarrassé du progrès de la science. En me faisant voir que j'avais tort d'apporter en preuve d'une intelligence supérieure une prétendue combinaison d'éléments qui n'était qu'une erreur de physique, qu'en résulte-t-il ? Que vous déplacez seulement l'objet de mon admiration. Dans le nouveau tableau que vous m'offrez, l'ordre se présente à moi comme dans l'ancien tableau. Si le télescope a fait reculer l'espace, si cette brillante étoile qui me paraissait simple est double et triple, si au lieu d'un astre, j'en aperçois 3, au lieu d'un monde, 3 mondes avec leurs sphères dépendantes, si Dieu au centre de cet incommensurable univers voit défiler devant lui ces magnifiques théories de soleil, je m'empare de ces grandeurs. Ce sont des preuves ajoutées à mes preuves. je consens à échanger contre ces merveilles du firmament les deux luminaires domestiques du foyer de l'homme. Deux études parallèles, opinion mixte ou panthéisme. Deux études parallèles ont procédé dans le monde, mais non de la même vitesse. L'étude de l'esprit et celle de la matière. La première a donné naissance à l'école philosophique intellectuelle, ouverte aux vieux âges et perpétuée jusqu'à nous. Il est beau de voir de Pythagore à Leibniz une succession d'heureux génies exclusivement occupés de l'histoire inaltérable de Dieu et de l'âme, sans être dérangés par le mouvement d'une société temporelle et fugitive. Les anciens et les nouveaux platoniciens poursuivaient leurs recherches au fracas des victoires d'Alexandre et de l'invasion des barbares. De nos jours, quand le bruit des 1000 combats de Bonaparte retentissait en Italie, des hommes de la science déroulaient paisiblement à Naples les manuscrits d'Herculanum. Au bout d'une soie, une lettre brûlée de quelque traité d'Épicure était, avec précaution, enlevée par eux. Ils retenaient leur haleine de peur de disperser ce grain de cendre philosophique recueilli des laves du Vésuve, tandis que le souffle d'un conquérant balayait les empires. Mais pour s'enquérir de Dieu et des opérations de l'esprit, les méditations solitaires de l'intelligence suffisent. L'Inde, l'Égypte, la Grèce, l'Italie eurent tôt pénétré le pénétrable en tel sujet, et se vinrent égarer dans les songes qui flottent à la limite des vérités inaccessibles. Aujourd'hui, nous en sommes encore où en étaient les anciens à l'égard de la spiritualité. Nous passons et repassons à travers leurs systèmes, semblables aux singes dans le cerceau de la couronne. Depuis Locke, Malebranche, Condillac, combien de rêvasseries contradictoires abandonnées. Les chaires d'Édimbourg n'ont pas été plus stables. L'Allemagne voit accraventer successivement ses philosophies prétendues supérieures. Kant est allé au cercueil avec son sensualisme ressuscité. L'éclectisme moderne croule maintenant à la façon du reste. Que viendra-t-il après ? Une autre subtilité, propre à remplir quelques cervelles creuses comme le gaz dans un ballon vide. L'étude de l'esprit est épuisée. Elle a touché les bornes du possible en métaphysique. On peut la revêtir d'un nouveau langage, non l'enrichir d'une seule vérité. L'étude de la matière, je l'ai dit plus haut, a cheminé moins vite. Elle ne se fonde pas sur les simples perceptions de l'âme. Elle marche le bâton de l'expérience à la main. Point ne lui chaud des jardins d'académe, du lycée, du portique. Elle ne se paye pas de promenades, d'imagination, de paroles. Elle demande des faits, résultats du travail ou du hasard. Elle n'est entrée en progression sensible que quand le globe a été parcouru au moyen de l'aiguille aimantée, le ciel mesuré avec le secours du télescope, la société rendue nouvelle par la découverte de la poudre à canon, de l'imprimerie, de la vapeur. Cette science de la matière n'était pas douce tout d'abord de ses propres organes comme celle de l'esprit. Force a été de les composer, de pourvoir le génie de la terre du trépan, du forceps, du creuset, de l'alambic, de la lunette, de tous les instruments perfectionnés. Ce génie n'a guère été complètement armé que de nos jours. Alors, agitant son bras de fer et montrant ses ongles d'acier, il s'est précipité dans la carrière où se traînait l'étude de l'esprit pantelante et lassée. Il a voulu faire ce que celle-ci n'avait su. Il s'est vanté avec ses machines, ses scies, ses spatules, ses ciseaux, ses hachettes, ses fourneaux, d'analyser des mystères échappés aux investigations du spiritualisme. Il s'est écrié « Je tiens l'âme, j'ai saisi la pensée avec mes tenailles dans cette bosse du cervelet. Une sangsue appliquée sur cette veine frontale a bu à la source de la poésie. Je sais comment se coordonne l'univers, j'en ai dérobé les secrets et les lois. Victoire, victoire !» Et voilà qu'il est arrivé à l'étude de la matière la chose advenue à l'étude de l'esprit. Certaines vérités passées, elle n'a plus rencontré que contradictions, doutes, ténèbres. Elle a vu ses convictions du jour détruites par ses observations du lendemain. Les horizons se sont refermés. Le mystère a recommencé. Une autre énigme, celle de la matière, a pris la place de l'énigme de l'esprit, et le mot en est demeuré inconnu. Le Dieu s'est dérobé à de brutales sollicitations. En vain le scalpel s'est enfoncé dans le crâne humain. Il n'a pu disséquer la pensée qui survit à la tête dont elle est sortie. L'étude de l'esprit a senti renaître son courage quand son adversaire fanfaron s'est perdu dans le chaos. Elle s'est écriée à son tour « Tu ne tiens rien, tu ne sais rien, tu m'oses dire qu'un principe matériel engendrerait un être immortel et intellectuel. Fuis avec tes couteaux inintelligents et tes muettes anatomies. » Entre les deux contendants s'est glissée une opinion discrète, moitié esprit, moitié matière, gentil monstre biforme. Née de leur union, elle leur a murmuré d'un ton filial et mielleux. « Très honoré père et mère, il me semble aisé de vous mettre d'accord. Dans mon humble façon de voir, vos raisonnements, excellents d'ailleurs, se perfectionneraient peut-être en prenant un juste milieu. Je vous propose ce traité de paix. Le cerveau mortel n'enfante point une fille immortelle, mais la pensée immortelle ne prouve pas l'existence de l'âme. Il sera reconnu par les deux parties que la pensée est une étincelle à voler du foyer universel de l'intelligence. Elle y revole et se réunit à son élément, l'esprit, sans conserver la connaissance de son individualité ici-bas, comme le corps, en se dissolvant, retourne à son élément, la matière. Nous voici dans le panthéisme de Virgile, renouvelé par Spinoza, ou dans le dogme des deux principes divisés, ennemis et coexistants éternels, empruntés des mages. Système le plus extravagant ou système le plus inexplicable que l'on puisse imaginer. Tout est Dieu, une rose ou les ordures du grand lama, ou bien il y a deux dieux, l'un vivant, l'autre mort, tous deux également puissants et impuissants. Vaguez, si cela vous amuse, dans ces chimères, mais ne dites pas que vous les comprenez et qu'elles satisfont votre raison. Si la pensée, flamme divine, remonte et se perd dégagée des sens au brasier de l'intelligence, il en résulterait que l'esprit individualisé dans l'homme aurait sa conscience, son « moi », que l'esprit universel n'aurait pas. L'esprit ou la pensée impérissable reste dans le monde après que le corps qui lui servait d'enclôture est tombé. Cette pensée ne vivrait que dans ce monde et pas au-delà. Elle serait à la fois animée et morte, animée parmi les hommes où elle aurait paru, morte à son centre d'attraction où elle se serait rejointe. Épurée de la matière, la pensée ne saurait plus ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle a été. L'inintelligence donnerait l'intelligence. L'indivisibilité, la faculté d'être en tout lieu et au même moment, recevraient leur qualité de la divisibilité, de la substance inerte et bornée. Le corps serait la mémoire ou le memento de l'âme. Et d'un autre côté, le corps ne sait pas qu'il existe sans la perception de l'esprit. Il meurt s'il n'est uni à l'âme. On concevrait l'âme s'éteignant partout à la fois. Mais quoi ? La pensée demeurera individu immortel sur le globe dès qu'elle y aura brillé, et elle s'annulera généralité sans intuition d'elle-même alors qu'elle refluera dans son principe. Par un renversement de toutes les notions du genre humain, elle vivra sur la terre et elle ira mourir au ciel. car c'est mourir que de défaillir, sans garder la conscience de la vie. La pensée sera double, analyse intelligente dans la région matérielle, synthèse imbécile à la source même de l'intelligence. Le corps, lui, n'a pas ces deux existences jumelles. Il cesse d'être au monde quand il cesse de s'y montrer. Il se dissout, et sans l'esprit, garde note de son passage, nul ne saurait qu'il a existé. Où est le corps d'Homère? Vous savez bien où est sa pensée. Mais la pensée n'est-elle pas semblable au flambeau? Le flambeau s'allume aux émanations d'une lumière empruntée et se volatilise avec l'aliment qui le nourrit. La comparaison ne vaut. Le flambeau se dévore lui-même en quelques heures. La pensée est une lampe perpétuelle qui brûle sans se consumer. Mais n'en est-il pas de la génération des idées comme de celle des corps? L'homme laisse ses pensées sur la terre comme il y laisse ses fils. La similitude cloche. Votre fils meurt, il engendre un fils qui meurt, ainsi de suite. Votre idée peut enfanter avec les esprits divers d'autres idées et se perpétuer en ligne collatérale. Mais elle ne connaît point le tombeau. Elle va s'enfonçant dans l'avenir, contemporaine successive de ses filles. Cette société, dont aucun individu ne disparaît, s'accroît à l'infini. Les grands-parents vivent avec leurs enfants et gardent comme eux une immortelle jeunesse. Des deux postérités matérielles et spirituelles de l'homme, la première est pérenne, la seconde éternelle. Conclusion. De toute nécessité, si l'âme ne s'annihile avec le corps, elle conserve le sensorium. Il est inutile de recourir aux subterfuges de ces philosophes, lesquels sont d'avis que l'âme ne se présente pas nue à la mort. Sous le rude tissu de nos organes périssables, s'étendent, assurent-ils, des organes déliés et indestructibles, les propres organes de l'âme, immatériels, immortels. Elle conserve de cette sorte un véhicule idoine à lui transmettre la connaissance des objets hors de soi. Thank you.